Quatrième partie. Le clan Costello. 2002. Le troisième souffle. L'essentiel, nous ne savons pas le prévoir. Chacun de nous a connu les joies les plus chaudes, là où rien ne les promettait. Elles nous ont laissé une telle nostalgie que nous regrettons jusqu'à nos misères, si nos misères les ont permises. Antoine de Saint-Exupéry. 0. Le bruit familier de la circulation. Souffle tiède, printanier. Un réveil plutôt confortable. J'ouvre les yeux. Je devine la lumière du petit matin. Je suis allongé sur un banc vert foncé en bois et en métal, sur le trottoir d'une large avenue bordée de platanes. Malgré la douceur de l'air et le cadre agréable, je devine tout de suite que quelque chose est inhabituel. Saisi par l'inquiétude, je regarde les plaques d'immatriculation des voitures, je déchiffre le nom d'un restaurant entouré de verdure, la Closerie des Lilas. Je contemple la colonne Maurice plantée à côté du banc. Elle annonce la sortie prochaine d'un film ayant pour titre « L'Auberge Espagnole ». Je braque les yeux sur le panneau indiquant le nom de la rue, boulevard du Montparnasse. Enfin, en tendant l'oreille, je constate que toutes les conversations autour de moi sont en français. Pour la première fois, je ne me suis pas réveillé à New York, mais à Paris. 1. Je remontais le boulevard en courant, cherchant une cabine téléphonique pour appeler Sullivan. J'en trouvais une devant l'église Notre-Dame-des-Champs, mais un SDF dormait à l'intérieur. En jetant un coup d'œil à l'appareil, je pris conscience que je n'avais de toute façon pas de carte de crédit. Je laissai tomber le téléphone et entrepris de héler un taxi. J'expliquai au premier qui s'arrêta que je n'avais que des dollars, mais que je doublerais la valeur de sa course s'il voulait bien m'amener jusqu'à l'aéroport. Le chauffeur redémarra sans prendre la peine de me répondre. Heureusement, le second était plus sympathique et accepta de me charger. Je regardais l'horloge du tableau de bord. Il était 7h30. Il y avait un exemplaire du Monde posé sur la banquette. Le journal était daté du mercredi 12 juin 2002. Un gros titre barrait la une surmontant une photo du footballeur Zinedine Zidane. Mondial. La France éliminée. Champion du monde en 1998, les Bleus ont été sévèrement battus par le Danemark, 2-0. Cette fois, je ne m'étais pas contenté de faire un saut dans le temps de 9 mois. Je m'étais carrément réveillé sur un autre continent. À travers la vitre, je regardais les panneaux qui défilaient, indiquant des lieux dont je n'avais jamais entendu parler. Porte de Bagnolet, Noisy-le-Sec, Bondy, Aulnay-sous-Bois, Villepinte. La circulation n'était pas trop dense. En moins de 3 quarts d'heure, nous fûmes à Charles de Gaulle. Sur les conseils de mon chauffeur, je descendis au terminal 2E, là où je pourrais, d'après lui, trouver un comptoir de vente Delta Airlines. Grâce à la prévoyance de Sullivan, j'avais des dollars plein les poches et un passeport que j'espérais valide. Il restait des places sur le vol de 10h35. Je payais mon billet en liquide et passais sans difficulté les contrôles de l'immigration. Dans la salle d'embarquement, je m'offris un café et un pain au raisin. Puis je changeai quelques dollars en euros pour acheter une carte téléphonique. Mieux valait s'assurer que Lisa était bien à New York avant de monter dans l'avion. Je composai plusieurs fois le numéro de Sullivan, mais tous mes appels restèrent sans réponse. D'autant plus étrange qu'avec le décalage horaire, il était 3h du matin à New York. Soit mon grand-père dormait à point fermé, soit il n'était pas chez lui. Dans un relais, j'achetais des magazines américains. La guerre contre le terrorisme de George W. Bush et son axe du mal saturaient l'actualité. Puis on appela les passagers à embarquer. Rapidement, je me retrouvai assis sur mon siège, coincé entre une mère essayant de calmer son marmot et un ado puant la transpiration qui écoutait son baladeur à plein volume. Pendant une bonne partie du voyage, je me remémorais les événements de la veille, enfin, de l'année dernière. Ce funeste 11 septembre 2001, je m'étais matérialisé dans les cuisines de l'Empanada Papas et j'avais eu la surprise de découvrir Lisa assise au comptoir comme si elle m'attendait. En m'apercevant, elle s'était jetée à mon cou en larmes. Les attentats lui avaient donné une insatiable faim de vie. Malgré ce jour chaotique, nous nous étions retrouvés et nous nous étions aimés, dans l'urgence, sans retenue, sans promesse de lendemain. Lorsque j'étais reparti, elle était endormie dans son lit et j'avais disparu sans que nous ayons abordé la question de notre avenir. À quoi devais-je m'attendre désormais ? Allait-elle m'accueillir avec un sourire ou avec une paire de claques? Le vol me parut interminable. Lorsque l'Airbus se posa à JFK, je sautai dans un taxi et lui donnai l'adresse de l'appartement de Morningside Heights. Il était presque midi lorsque j'arrivai au coin de la rue. Je demandai au chauffeur de m'attendre et montai les escaliers à pas de loup. J'appuyai sur la sonnette, mais personne ne vint m'ouvrir. Malgré mes précautions, Lena Markovitch, la voisine hargneuse, avait dû m'entendre car elle sortit sur le palier armée d'une bombe lacrymogène. Elle essaya de m'en asperger, mais je déguerpis sans demander mon compte. Ce n'était vraiment pas le moment d'être pincé par les flics. Je repris mon taxi en direction de Washington Square. Je tapai à la porte de Sullivan, sans plus de succès que chez Lisa. J'allais rebrousser chemin lorsque je vis une enveloppe avec mon prénom écrit dessus, coincée entre les griffes du heurtoir en forme de lion. « Salut, gamin. Je n'ai jamais cru en Dieu, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il existe effectivement une sorte de grand architecte qui présiderait à nos destinées. Peut-être même lui arrive-t-il parfois d'être miséricordieux. J'aimerais tant que tu reviennes aujourd'hui. J'aimerais tellement que tu assistes à ça comme j'ai pu y assister moi-même il y a presque 40 ans. Je ne crois pas en Dieu, et pourtant depuis plusieurs semaines, j'adresse des prières tout seul dans mon coin, sans co-religionnaire, sans savoir quel mot employer, sans même savoir ce que je pourrais promettre en échange. Donc, s'il y a effectivement un Dieu sur cette foutue planète, et si tu reviens aujourd'hui, ne perds pas une minute. Viens nous retrouver à la maternité du Bellevue Hospital. Dépêche-toi, tu vas être papa. » 2. Je cours. Accompagné d'une infirmière, je cours dans les couloirs de l'hôpital. La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a 8 ans. Lisa avait avalé un cocktail de somnifères avant de s'ouvrir les veines pour essayer de se donner la mort. Aujourd'hui, elle donnait la vie. La roue tourne. Il faut savoir encaisser les coups. Il faut faire preuve d'endurance, faire le dos rond, laisser passer l'averse, survivre au déluge. La plupart du temps, le balancier finit par s'inverser. Pas toujours, mais souvent. Et généralement au moment où on s'y attend le moins. J'ouvre la porte de la chambre 810. Lisa est allongée sur la table de travail. Une sage-femme et Sullivan veillent sur elle. Elle est ronde, superbe, épanouie, totalement métamorphosée. En me voyant, elle pousse un cri et fond en larmes. « Je t'ai tant espéré, » dit-elle alors que nous nous embrassons. Puis je tombe dans les bras de Sullivan.
« Bon sang, je le savais !»
rugit-il en m'étreignant avec force. Lui aussi a des larmes plein les yeux, je ne l'ai jamais vu si heureux.
« D'où tu viens ?»«
De Paris, je te raconterai. » Je regarde le ventre énorme de Lisa. Je n'arrive pas à croire que tout ça est réel. Je n'arrive pas à croire que c'est notre tour de devenir parents. « Je suis médecin, » dis-je à la sage-femme. « Comment ça se présente ?»« Les contractions ont commencé à 10 heures et votre femme a perdu les os il y a 1 heure. Son col était à 6. L'anesthésiste a posé la péridurale ?»«
Oui, mais elle était trop dosée et elle a ralenti les contractions, » me dit Lisa. « Je ne peux plus du tout bouger les jambes. »«
T'inquiète pas, chérie. On va attendre qu'elle ne fasse plus effet, puis on te fera une autre injection, plus légère. » Puis Betty, la sage-femme, nous laisse seuls quelques instants. Lisa en profite pour me montrer les photos des différentes échographies.
« C'est un garçon, » annonce-t-elle fièrement. « Et tu as bien fait de venir aujourd'hui, parce que figure-toi que je t'attendais pour choisir son prénom. »
Nous passons une bonne heure à proposer chacun nos préférences. Sullivan ajoute son grain de sel, et finalement, nous nous mettons d'accord sur Benjamin.
« Au fait, la prochaine fois que tu daigneras venir me voir, ne te trompe pas d'adresse, » m'avertit Lisa.
« Je ne comprends pas. Tu n'imaginais quand même pas que j'allais élever ton fils dans mon minuscule appartement. J'ai déménagé. » Cette fois, c'est au tour de Sullivan de sortir des Polaroids de sa poche. Il me tend des clichés d'une belle maison de briques dans Greenwich Village. Je reconnais l'angle de Cornelia Street et de Bleecker, près de l'Oyster Bar où il m'avait emmené manger des huîtres en 1995. Sur les clichés, je découvre avec émotion une chambre d'enfant déjà équipée. Un lit, une table à manger, une commode, une poussette, un cosy, un transat. En parcourant les photos, je comprends à quoi a servi l'argent gagné en bourse. Le thermomètre de la liberté.
« Le docteur arrive !» me dit Betty.
« Mais c'est moi le docteur !»
« Peut-être, monsieur, mais ce n'est pas vous qui allez accoucher votre femme. »«
Ça, n'y pense même pas !»
renchérit Lisa.
En attendant le gynéco, la sage-femme installe Lisa, pied aux étriers, tout en lui rappelant les consignes pour gérer les contractions et se concentrer sur sa respiration. Alors que Lisa pense s'entraîner progressivement, elle comprend tout à coup que la course a commencé. « Allez, on profite de chaque contraction pour pousser !» lance le gynéco en débarquant dans la pièce comme une guest star. Les 10 minutes suivantes, je tiens la main de Lisa, l'encourageant par un clin d'œil, un signe de tête, une plaisanterie. D'après mon expérience de médecin, je vois que les choses se déroulent bien. La tête du bébé se présente rapidement. J'ai pratiqué quelques accouchements à l'hôpital et je sais que les poussées à venir sont les plus douloureuses. Lisa lâche ma main et pousse un hurlement. Hors d'haleine, elle hoquette, suffoque, semble renoncer, puis rassemble l'énergie qui lui reste et jette ses dernières forces dans la bataille. Soudain, la délivrance. Un apaisement, une pause dans le temps. Ça y est, le reste du corps est passé. Et déjà notre bébé gigote et hurle sur la poitrine de Lisa. Tout violet, tout recroquevillé, et déjà plein de vie. Je coupe le cordon ombilical et me penche vers lui. Lisa me regarde, l'émotion me submerge. Des larmes, de la transpiration, du sang. Le champ de bataille d'une guerre à laquelle nous avons survécu. Désormais, nous sommes 3. 3. Sous l'œil de la sage-femme et de mon grand-père, je donne à mon fils son premier bain. Je prends le temps de le regarder vraiment. Il est grand et mince, son torse est tout bombé, ses doigts sont minuscules, bien que longs et fins. Il a déjà une touffe de cheveux noirs, des yeux fendus, magnifiques. Merci pour la maison, dis-je en séchant le nourrisson.
Pas de quoi, répondit Sullivan. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de ta famille pendant ton absence.
Et toi, ça va? La santé, tout ça? Il part dans un éclat de rire.
Te bile pas pour moi, gamin. Ce bébé va me donner une deuxième jeunesse.
Tandis que Betty et mon grand-père s'éclipsent, je pose le petit Ben contre mon torse et je m'assois dans un fauteuil près de la fenêtre qui donne sur les toits ensoleillés de la ville. Je sens sa peau contre ma peau et je pleure doucement. Je reste un long moment seul avec mon fils, ce petit gars conçu dans le chaos d'un jour de cendres et de peur. Quel sera son caractère? Comment se débrouillera-t-il dans ce monde plein de dangers? Comment pourrais-je l'aimer, le protéger? Moi qui ne suis jamais là. J'essuie mes larmes avec mon bras. Je sens le poids de la responsabilité qui se mélange au bonheur. Je sais que dans quelques heures, je serai reparti. Et pour la première fois, je me sens plus solide, plus structuré. Je regarde le petit bonhomme qui s'est endormi. Je puise des forces dans sa présence. Et je souris. Quelle aventure, putain. Je repense à tout ce que j'ai traversé pour en arriver là. Il faut que je continue à encaisser les coups, pour lui. Un jour, le cycle infernal finira par s'arrêter. Aujourd'hui marque une étape. La guerre est encore longue, mais je pressens que je viens de remporter une bataille importante. Plus rien ne sera comme avant. Je savoure encore un peu cet instant. Une nouvelle vie commence.